Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Il réussit par exemple à lui vendre 197 lettres de Charlemagne, alors que Charlemagne ne sait pas écrire. Le tout écrit en français sur du papier.
RTL.
Il réussit à lui vendre un poème de Abélard qui se plaint de son infirmité, qui s'appelle L'amant malheureux.
Jusqu'à 22h.
Il a écrit 27 340 lettres et écrits.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Abélard qui se plaint de son infirmité dans un courrier, c'est quand même très très drôle. Extrait des Grosses Têtes de la saison dernière avec Philippe Bouvard et Michel Dedecker qui était l'invité de cette émission. Voilà, pour lancer notre thème à venir, l'histoire de ce faussaire Vrain Lucas et de son pigeon, le mathématicien Michel Schall. Et c'est Gérard Coulon qui est notre invité. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir. Tous les deux.
Vous êtes écrivain, ancien directeur du service des musées départementaux de Touraine et vous publiez Signé Vrain Lucas, la véritable histoire d'un incroyable faussaire, c'est aux éditions Errance. Alors, on va essayer de comprendre qui est qui pour commencer. On est d'accord ? Alors, on commence avec Michel Schall, c'est le pigeon.
Oui.
Qui est Michel Schall ?
Mais c'est un pigeon absolument célèbre et respectable. C'est à l'époque le plus grand mathématicien connu. Il est membre de l'Académie des sciences, c'est un monsieur respectable, il aurait eu probablement le prix Nobel aujourd'hui, il a la médaille Copley de la Société Royale d'Angleterre, il est élu membre étranger de la Société de Londres, c'est vraiment, quelqu'un l'a surnommé l'empereur de la géométrie, c'est le savant le plus renommé de l'époque. Et en plus, il n'a pas que des qualités intellectuelles, il a des qualités de cœur. C'est un homme intègre, respectable, extrêmement bon. Voilà, quelqu'un d'extraordinaire en un mot. Et surtout un esprit extrêmement rationnel.
On est en 18... C'est important de le dire avec ce qu'on va raconter ensuite. On est en 1867 dans la France du Second Empire. Michel Schall, alors moi j'ai des souvenirs de maths très très lointains. Mais
ce sont les bons.
Il y a une relation de Schall, c'est ça ?
C'est pour fabriquer la. Je suis pas très matheux. La somme de deux vecteurs, AB plus BC égale AC, et on met des petites flèches dessus. Les auditeurs matheux comprendront.
Voilà. Et André Facetta, notre réalisateur, se souvient d'un seul coup de la relation de Schall. C'est vrai qu'il a son nom sur la Tour Eiffel, Michel Schall.
Absolument. Vous avez sur le balcon de la Tour Eiffel, au premier étage, 72 scientifiques, et côté Trocadéro, vous en avez 18, et Schall voisine avec Lavoisier.
Parce
que
il est en bonne compagnie.
Il n'a rien à voir avec la Tour Eiffel.
Du tout.
C'est une sorte d'hommage.
Voilà, c'est-à-dire que le constructeur a voulu rendre hommage aux grands scientifiques français entre 1789 et 1879.
Alors, on a un éminent mathématicien, Michel Schall d'un côté, c'est le pigeon. Et de l'autre, on a le faussaire. Comment s'appelle-t-il ce faussaire ?
Son vrai nom, il a deux prénoms. Il s'appelle Denis Vrain, qui est un prénom.
Vrain.
Pensons à Saint-Vrain, Saint-Véran. Et il s'appelle Lucas. Et donc, c'est le fils de journalier illettré du même département que Schall. Et il fait des études à l'école primaire brillante. C'est un gamin doué. Si ses parents ne savent pas lire, lui adore les livres. C'est un rat de bibliothèque. Et il demande, quand il a une quarantaine d'années, à devenir catalogueur à la Bibliothèque nationale
à
Paris.
Qu'est-ce que c'est, catalogueur ?
C'est-à-dire qu'il va rédiger le catalogue de la bibliothèque, il va participer à la rédaction de ce catalogue. Et pour lui, c'est le bâton de maréchal. Et il est sûr d'être pris parce qu'il aime trop les livres. Et puis, catastrophe, il vient à Paris avec son épouse, sa petite fille, et manque de chance, on ne le retient pas parce qu'il n'est pas bachelier, il n'a pas le bac. Et là, vous savez, il y a dans la vie des gens, des hommes, des femmes, des points de bascule. Et là, je suis persuadé que la Bibliothèque nationale l'aurait pris, il aurait été un fonctionnaire zélé. Mais il se retrouve sans le sou à Paris, avec une famille à nourrir, et il choisit le mauvais versant.
Et alors, c'est là qu'il commence sa carrière de faussaire ?
Pas complètement, mais il s'acoquine avec un cabinet de généalogistes. Vous savez, à l'époque, les bourgeois aimaient bien avoir un titre de noblesse pour orner l'arbre généalogique, pour faire une jolie branche bien verte.
Ça veut dire qu'il l'inventait ?
Bien sûr. Tout le monde le savait. Et Vrain Lucas commence à confectionner. Et il se rend compte qu'il est assez doué, finalement. Peut-être pourrait-il en tirer parti. et sa phosphore dans la tête de Lucas.
Ça commence à germer. En plus, à cette époque, fin du Second Empire, il y a quoi, une espèce de marché de l'autographe qui passionne les Français, c'est
complètement.
Ça
c'est-à-dire que jusqu'au début du 19e, on confectionne des emballages avec les papiers des hommes célèbres. Et puis, vers 1820-1830, il y a un engouement, une mode qui se crée. Et au milieu du 19e, c'est très fort. Et sous le Second Empire, c'est l'apogée.
Donc tout le monde veut un autographe de personnalité,
voilà.
C'est ça ?
On vend des autographes de Marat, que Marat aurait gribouillé juste avant de mourir dans sa baignoire. On vend des trucs absolument impensables. Donc il y a un vrai engouement qui explique, vous avez raison de le souligner, le climat de l'époque, c'est-à-dire ça ne tombe pas comme cela par hasard.
Alors Gérard Coulon, comment le pigeon et le faussaire, Michel Chasles et Vrain Lucas se rencontrent ?
Ils se rencontrent un beau jour de novembre 1861. Vrain Lucas, qui fait un peu le marchand pour d'autres marchands, qui prospecte, sonne à la porte de Michel Chasles avec déférence.
Oui, parce qu'il se range chez un mathématicien respecté, on le rappelle.
C'est vraiment une gloire. Mmh. Et il est très bien accueilli, avec beaucoup d'affabilité. Et il est très malin, Vrain Lucas. Il glisse qu'il est de la même région que Michel Chasles.
Connivant.
Ils sont pays, donc c'est très important.
Oui. Heure et Loire.
Et il a l'intelligence de glisser qu'il est membre de la toute jeune société archéologique d'Heure et Loire. Et Chasles lui rétorque, mais mon cher, je suis membre moi aussi. Et la connivence est créée.
Donc la confiance se crée aussi. Ouais. Et il fait quoi ? Il lui propose, Vrain Lucas, des lettres de personnalité. C'est lui qui fait le premier geste, en quelque sorte.
Et il lui propose des lettres de gens totalement inconnus, Molière, La Fontaine, Racine.
Bon.
Qui lui vend 500 francs. Et puis,
c'est beaucoup, à l'époque ?
Oui, c'est absolument énorme.
Parce qu'il est riche, Michel Chasles.
Oui, j'ai omis de dire qu'il est d'une famille très aisée et qu'il gagne très bien sa vie. Et en plus, il est célibataire. Donc il n'a vraiment aucun frein pour ses dépenses.
Donc je lui vends ces lettres-là et ça ne l'étonne pas, Michel Chasles.
Non, parce que Michel Chasles lui remet, ça se faisait à l'époque, des listes de personnalités dont il aimerait avoir des autographes. Il dit, si vous trouvez un autographe de Charlemagne, ça m'intéresse. Jeanne d'Arc, encore plus. Quant à César et Cléopâtre, alors là, ce serait bien aussi.
Mais comment c'est possible ? Parce qu'avec notre regard d'aujourd'hui, on se dit, ce Michel Chasles, brillant, grand personnage de l'époque, Second Empire, c'est absurde, c'est ridicule.
Oui, c'est absurde, mais on confectionnait des listes et on espérait découvrir la pièce rarissime, extraordinaire.
Le rêve était plus fort que la réalité.
Et que la raison. Scientifique.
Le pigeon est ferré, le piège s'est refermé, il va tourner au scandale le 8 juillet 1867. Ce jour-là, Michel Chasles doit intervenir devant l'Académie des sciences. Mais ça va, on vous le raconte juste après, pas bien se passer.
Vous écoutez RTL.
1867, l'histoire que l'on vous raconte a provoqué un scandale dans toute l'Europe, ou presque. Gérard Coulon, je rappelle que vous êtes écrivain, conservateur honoraire du patrimoine, et que donc vous passionnez depuis une trentaine d'années pour cette histoire de faussaire, Vrain Lucas, qui a arnaqué un mathématicien célèbre, Michel Chasles. Et donc ce Michel Chasles, il est riche, il est reconnu. Et le 8 juillet 1867, il est à Paris, devant la prestigieuse Académie des sciences. Que présente-t-il à ses collègues ?
Il présente une communication dans laquelle il va révéler qu'en fait, tout le monde sait que c'est Isaac Newton qui a découvert les lois de l'attraction universelle. Vous vous souvenez de l'histoire de la pomme ? Bon, tout le monde connaît.
Bien sûr.
À l'époque aussi, bien entendu. Eh bien,
donc la pomme qui tombe,
oui,
c'est ça, voilà, tout simplement.
Pourquoi la pomme tombe ? Pourquoi la lune ne tombe-t-elle pas ? Attraction universelle. Mm-hmm. Et Chasles va dévoiler des notes et des lettres de Pascal, montrant
Blaise Pascal,
notre grand Pascal, les provinciales, les pensées, etc., montrant que une bonne dizaine d'années avant Newton, Pascal avait déjà découvert les lois d'attraction universelle. Donc un Français découvreur.
Alors bain aussi ou
Non, même pas, comme ça, naturellement. C'est une stupéfaction totale, évidemment.
Et donc
et ça remet en cause l'histoire des sciences.
Bien sûr. Donc Michel Chasles dit, vous allez voir, je vais vous apporter la preuve de cette découverte de Pascal. Et alors, quelques jours plus tard, il arrive avec les lettres.
Il donne absolument toutes les lettres. Et
combien de lettres ?
Oh, mais il en présente des centaines.
Signé Blaise Pascal.
Et bien sûr. Signé de la maman de Newton, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où Blaise Pascal est censé apporter la loi à Newton, Newton a 11 ans quand même. C'est un petit détail
logique,
qui devrait avoir son importance.
Oui,
et Newton, paraît-il, jouait au petit bateau sur les ruisseaux, s'intéressait pas du tout à l'attraction universelle.
Et ça, c'est la réalité. Voilà, parce que, c'est une histoire de faussaire. Donc, quand vous dites la vérité, on est sûr que c'est la vérité.
Ce que vous dites est faux.
Voilà, donc Newton ne s'intéressait pas à 11 ans. Voilà, c'était un gamin qui jouait comme d'autres gamins. Et donc, il recevait pas des lettres de Blaise Pascal.
Que non.
Et quand même, imaginons Blaise Pascal s'adressant à un gamin de 11 ans, c'est absurde.
Et oui, et notre pauvre Charles produit des lettres, des centaines de lettres, où il est bien montré que Blaise Pascal a donné ses théories à Newton, que même plus tard après, il est venu essayer de les rechercher avant que Pascal meure pour qu'on ne l'accuse pas de l'avoir plagié, et Newton apparaît comme un fieffé coquin.
Alors les membres de l'Académie des sciences entendent cette thèse de Michel Schall, enfin c'est même pas une thèse pour lui, c'est la vérité. C'est quoi les réactions immédiates?
Les réactions, on aime beaucoup Schall, on l'estime beaucoup, et au début, on susurre. Et puis, peu à peu, il y a des gens qui se manifestent et qui disent « Mais attendez, ça n'est pas possible. Scientifiquement, les connaissances n'étaient pas suffisantes. On commence déjà à faire expertiser des lettres. » Et dès le départ, un spécialiste de Pascal, de l'époque, Prosper Faugère, voit les lettres et dit « Ce sont des faux et hontés. » Et cependant, l'affaire continue. Parce que le prestige de Schall est tel qu'on n'ose pas aller contre la parole qu'il donne.
Et les Anglais, comment ils réagissent? Newton qui est mis en cause.
Ils réagissent très mal, on déboulonne leur idole scientifique, et la perfide Albion se porte très mal après, et on manque l'incident diplomatique. Mais il y a à l'époque un sentiment anti-anglais qui est important, et ça satisfait beaucoup d'esprit.
Alors Michel Schall dit que la théorie de l'évolution, c'est une idée de Pascal. Il va s'arrêter à un moment quand même, il va entrer dans un engrenage pour prouver qu'il a raison.
Oui, il entre dans un engrenage qui est tout à fait curieux et qui l'empêchera après de faire marche arrière. C'est qu'il va produire des centaines et des centaines de lettres de personnages prestigieux. Le pape, Louis XIV, tout le monde y passe.
Pour prouver que
Newton est bien un plagiaire de Pascal. Newton a piqué la théorie d'attraction universelle à Pascal.
Et donc, par exemple, il produit une lettre de Galilée,
Oui, parce qu'à un moment, on produit une lettre de Galilée, effectivement. Alors, c'est très curieux, parce que, d'après les mesures qu'il y a, il aurait fallu que Galilée sache des choses, etc. Et finalement, on trouve le truc. On dit que Galilée a produit à Pascal des informations. Mais personne ne le sait. Et de fil en aiguille.
D'accord.
De fil en aiguille. Si, c'est-à-dire que pour que Pascal connaisse ce qu'il allait dire à Newton,
il fallait qu'il
y ait des informations qui n'étaient pas connues à l'époque
Mais
de Pascal.
Tout le monde s'écrivait, en fait, c'est
tout
ça
tout le monde
s'écrivait des lettres.
Et donc, il invente le fait que Galilée ne l'avait pas dit, mais avait trouvé ça déjà. Et l'avait filé à Pascal, qui avait à l'époque 19 ans. Comme on est jeune, alors.
Ah, qu'est-ce qu'ils étaient doués à cette époque-là ?
C'est une succession de cascades.
Sauf que cette lettre, elle va avoir un impact sur une autre sommité des Pays-Bas.
Sur Huygens aux Pays-Bas.
Oui, pourquoi
Parce que Huygens est notamment l'inventeur des satellites de Saturne qui sont importants, on simplifie. Et normalement, pour connaître ça, Pascal devait connaître ce que Huygens disait. Donc ça veut dire que Galilée avait piqué à Huygens ce qui... Enfin...
Donc ça remontait jusqu'à Jésus ? Enfin, ça remontait jusqu'à qui, cette histoire ?
Ça remontait très loin,
c'est vrai.
Gérard Coulon, ce qui est quand même étonnant, c'est l'obstination de Michel Schall. Donc vous nous l'avez décrit comme un mathématicien respecté, intelligent. Il devient le commanditaire
Absolument.
De l'arnaque d'une certaine façon.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il demande au faussaire de lui fournir des lettres.
Absolument. Lorsque Vrain-Lucas vient chez lui après chaque séance du lundi l'après-midi.
C'est quoi la séance du lundi l'après-midi ?
Eh bien, c'est la séance de l'Académie des sciences.
D'accord. Donc on imagine chaque lundi après-midi.
Chaque lundi, Vrain-Lucas va chez Schall. Et il dit, maître, comment ça s'est passé ? Le maître dit, vous voyez, là, on m'a un peu contredit. On m'a dit que, etc. Si vous pouviez trouver une lettre. Montrant que, c'est-à-dire qu'il commandait les lettres.
Il est de bonne foi, Michel Schall.
Oui, il est vraiment de bonne foi. Il commanditait, il va même jusqu'à dire, Galilée faisait ses jets de telle façon. Il donnait telle formule. Ce qui fait qu'il dicte les lettres littéralement et il lui donne un programme à réaliser. Et la semaine d'après, Vrain-Lucas vient avec des lettres qui miraculeusement répondent mot pour mot aux critiques qui ont été formulées contre Michel Chasles.
Sauf qu'ils ont oublié un ou deux détails concernant Galilée, lesquels ?
Oh ben, y a juste un détail, c'est que la lettre de Galilée est censée être écrite en 1641,
oui.
Or Galilée est aveugle depuis 1637 jusqu'à sa mort. En plus, la lettre est en français et Galilée n'écrivait qu'en latin et en italien.
Et pourtant, l'arnaque va continuer. Le faussaire va continuer de fournir des lettres à son mathématicien.
Là, j'ai reçu un SMS de Rihanna pour vous, Thomas.
Ah bah oui,
j'embrasse.
Ça faisait longtemps que je voulais la rencontrer. Ah, elle sait parler aux hommes.
Des SMS.
Allez, restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Je suis un bien triste métier, je suis un faussaire qui le sait.
Jusqu'à 22h.
Faux aubussons, fausses armures, faux tableaux de maîtres au mur.
La curiosité est un vilain défaut.
Faux bijoux donnant de fausses rivières, ça va finir, qu'on sera tous des faussaires.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Les faussaires qui inspirent nos chanteurs Dominique A, Brassens et Cabrel dans l'ordre. Et ce soir, dans La Curiosité, vous l'avez compris, on vous raconte l'histoire d'un incroyable faussaire et de son pigeon, évidemment, car il faut être deux pour que ça marche, avec l'écrivain Gérard Coulon. Alors, petit rappel des faits pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Nous sommes en 1867. D'un côté, Michel Chasles, brillant mathématicien, affirme devant l'Académie des sciences à Paris que Pascal a découvert les lois de l'attraction universelle avant Newton et lui a communiqué ses découvertes dans des lettres. Mais ces lettres sont des faux, réalisés par un certain Vrain-Lucas. Des experts, évidemment, vont s'en rendre compte très facilement. Mais Michel Chasles, lui, il s'entête, publie d'autres lettres encore, signées Galilée, Montesquieu, Descartes, pour prouver ses dires. Il s'empêtre, hein, c'est ça, Gérard Coulon. Qu'est-ce qui pousse Michel Chasles à continuer à refuser l'évidence? Et quoi, l'orgueil, la folie?
Je crois que pendant... Vous savez, l'affaire va durer 24 mois. Et je crois qu'au début, il est vraiment sincère. C'est-à-dire qu'il croit à la réalité de ses lettres. Et puis, peu à peu, peut-être qu'il va s'apercevoir que des détails ne collent pas. Mais c'est quelqu'un, Michel Chasles, à qui l'on n'a jamais résisté scientifiquement. C'est une sommité. Et donc, personne ne veut véritablement le contredire. Et il balaie d'un revers de main tout ce qu'on lui oppose. Et à un moment, peut-être qu'il s'en est aperçu, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Une grande sommité comme lui a toutes les peines psychologiques pour reconnaître une erreur.
Alors j'imagine qu'à l'époque, Gérard Coulon, ça fait scandale, il y a des politiques qui s'en mêlent, ça fait la une de la presse.
Oui, et les politiques comme Thiers, par exemple, qui va être président de la République quelques années plus tard, dit au cours d'un dîner chez la marquise de Bonaparte, si l'on est français, on doit admettre la théorie défendue par Michel Chasles, et Pascal a bien inventé les lois de l'attraction universelle, et Newton n'est qu'un plagiaire.
C'est une pression patriotique que subit
absolument,
Michel Chasles.
Absolument, et Vrain-Lucas a lui aussi des intérêts patriotiques. Il veut redonner à la France l'éclat passé. Et donc ça passe sur toutes les découvertes faites par d'autres, notamment les Anglais, les Italiens ou les Hollandais.
Gérard Coulon, vous publiez cette histoire, vous racontez cette histoire dans un livre intitulé « Signé Vrain-Lucas, la véritable histoire d'un incroyable faussaire » aux éditions Errance. On a dit tout à l'heure que pour prouver ses dires, Michel Chasles avait produit des lettres signées, soi-disant, de Galilée, écrites en français, sauf que à l'époque, Galilée était aveugle et qu'il n'écrivait qu'en latin. Alors pourtant, il continue. Ce qui est génial, c'est la liste des personnalités célèbres dont vous fournissez la liste et dont vous publiez d'ailleurs quelques fausses lettres, hein. Évidemment, vous pouvez nous citer certains de ces noms, parce qu'on en a eu quelques-uns, mais il y en a encore plein.
Ah oui. J'ai répertorié 660 personnages historiques. Alors ça va de Newton, Pascal, Montesquieu, le pape, etc. Et puis on remonte, on arrive à Rabelais, on arrive à Charlemagne, Charles Martel, Jeanne d'Arc, évidemment. Et puis on arrive aux personnages de l'Antiquité. Cléopâtre, la poétesse Sappho, Vercingétorix, Jules César, l'empereur Auguste.
Des gens qui écrivent en français.
Tous en français sur papier, s'il vous plaît.
Et alors même parfois ici.
Et je veux même vous faire.
Oui dites.
Je veux vous faire une confidence. J'ai eu entre les mains le billet de Vercingétorix.
Ça doit avoir de l'émotion. Quoi.
Et quand on regarde le filigrane,
oui.
Manufacture Royale d'Angoulême.
C'est génial.
D'accord. Donc, c'est extraordinaire. Donc effectivement, Michel Chasles voulait...
Excusez-moi, je vous ai coupé.
Non, non, mais Michel Chasles voulait y croire, quoi, c'est tout. C'est, oui. Évidemment, c'est, sinon ce serait une insulte à son intelligence de dire le contraire. Il y a Marie de Médicis, il y a Louis XIII, il y a Shakespeare, il y a Racine.
Bien sûr.
Toutes ces lettres sont fournies par le même faussaire,
absolument,
par le même homme.
Absolument.
D'accord. Et on a du mal à croire quand même que Michel Chasles se soit fait berner. Est-ce que d'une certaine façon, il ne devient pas le commanditaire de l'arnaque ?
Il devient le complice. C'est-à-dire qu'ils mettent en place un très étrange partenariat. C'est-à-dire que l'un réclame des lettres et l'autre les exécute. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une source intarissable et qu'à chaque objection qui est faite, un document apparaît comme par miracle. Et c'est tout à fait étonnant. Et c'est vrai que l'ensemble crée un réseau inattaquable, inoxydable complètement. Et c'est vrai que les adversaires de Chasles se heurtent à des murs parce que, mais regardez, vous ne pouvez pas dire ça, puisque le pape lui-même convient que Galilée était aveugle, tout au moins il simulait la cécité pour pouvoir bien travailler et qu'on lui fiche la paix.
Donc chaque lundi devant l'Académie des sciences, il arrive avec de nouvelles lettres qui prouvent la véracité de ses dires de la semaine précédente.
Il devait se régaler les membres de
l'Académie. Oui, ce sont des cascades, j'y continue.
Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Vrain-Lucas, il ne faisait pas ça gratuitement. Chaque lettre recevait rémunération. J'imagine combien il y a laissé Michel Chasles.
Vous avez raison, chaque lettre était vendue et en fait on arrive à 150 000 francs or à peu près. Il est toujours délicat de faire des comparaisons, mais on arrive entre 600 000 et 800 000 euros, ce qui sont des sommes considérables.
Il y a laissé sa fortune presque?
Non, il était vraiment très riche.
Il était vraiment très riche, oui. Mais vous nous avez dit tout à l'heure qu'il était célibataire, ce qui n'est pas anodin dans cette histoire.
Non, ce n'est pas anodin parce que il est certain que si Chasles avait fondé une famille, avait une femme, des enfants, il n'aurait pas pu engouffrer toute sa fortune dans cette passion unique, dans cette passion tyrannique complètement. Et peut-être qu'une femme, une épouse, une compagne lui aurait dit « Bon, il faudrait peut-être penser à payer le charbon, à payer, etc. » Là, non, aucun frein. Donc aucun toute frein. Liberté était laissée.
Alors, le souci, c'est que Vrain-Lucas ne s'embarrasse pas de détails. Il y a plein d'erreurs factuelles dans ces lettres. Par exemple, il y en a une sur le café, dans une lettre signée Pascal ou envoyée à Pascal, c'est ça?
Absolument. Pourquoi c'est une erreur, ça ? Dans une lettre envoyée à Pascal, qui est datée de 52, donc bien avant la mort de Pascal, la lettre compare un effet physique à la mousse du café sur le bord d'une tasse. Seulement, manque de chance, le café n'est introduit à Paris qu'en 1657, 16 ans après, et que le café ne se répand que 3 ans après la mort de Pascal, donc ça ne colle pas.
Mais ça, Michel Chasles n'en a cure.
Bien sûr.
L'histoire va finir au tribunal et le procès de Vrain-Lucas restera dans les annales comme un grand moment de fou rire. On vous le raconte ce soir sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Et ce soir sur RTL, on vous raconte la véritable histoire d'un incroyable faussaire. C'est le thème de votre livre, Gérard Coulon, signé Vrain-Lucas, du nom de ce faussaire qui, à la fin du Second Empire, a mystifié le grand mathématicien Michel Chasles, l'entraînant dans un scandale majeur. Alors, on est maintenant le 16 février 1868. Vrain-Lucas a été arrêté. Son procès s'ouvre à Paris. On imagine qu'il passionne les Français.
Complètement. Et il passionne même le public de la salle du tribunal. La salle est pleine. On reconnaît les personnalités, on se les montre du doigt. Il y a là Anatole France, qui est tout jeune, qui parlera ensuite de l'affaire, qui fera allusion dans un livre. Et la presse fait les choux gras de cette affaire, bien entendu. Michel Chasles est là. Il n'est pas là comme accusé, il est là comme témoin.
Et il assiste à toutes les audiences ?
Il assiste à tout. Le président, vu l'âge et la tête chenue de Chasles, lui propose un siège. Mais Chasles tient à rester debout pour affronter les vagues de l'océan.
Pourquoi ? Parce qu'il est relativement âgé, Michel Chasles, à l'époque.
Oui. Il va mourir en 80. Il a 65 ans, à peu près. Donc,
ce qui, pour l'époque, commence à être un âge assez avancé.
Michel Chasles va être ridiculisé par le témoignage de Vrain-Lucas ?
Pour répondre exactement à votre question, au début, non. Parce que les gens ont un grand respect pour lui. Et puis, lorsque le président va lire les lettres, notamment la lettre que Cléopâtre adresse à César pour lui parler de leur fils Césarion, en disant « Mon petit, mon très aimé, j'envisage de mettre notre fils à l'université de Marseille parce que l'air y est sain et les profs excellents.
Non mais...
Là, ça va un peu. Alors,
il s'est fait plaisir, Lavrin.
Ah oui, complètement.
Il avait envie de se faire prendre, en fait, de se faire cueillir comme faussaire, c'est pas possible.
Mais en tout cas, les chroniqueurs de l'époque, Le Figaro, Le Siècle, Le Constitutionnel et Le Gaulois, etc., disent au début, il y avait un silence dans la salle. Puis ensuite, il y a eu un ou deux gloussements. Et alors, la salle est partie dans un éclat rire absolument général. Et Charles, évidemment, a été ridicule.
Effondré, oui. J'imagine.
Effondré.
Mortifié,
totalement.
Oui, on peut l'imaginer. Vrin-Lucas, il reconnaît les faits.
Ah, complètement.
Dès le début.
Ah, oui.
Et il raconte, il décrit les stratagèmes qu'il utilise pour berner Michel Schall.
Oui, tout à fait. Je donne des exemples dans le livre. Il prend par exemple un article de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il recopie et il met simplement une formule, la formule de politesse du début, cher ami, et il met une formule de politesse à la fin. Et curieusement, d'ailleurs, qu'il s'agisse de Sappho.
Et entre les deux, il met quoi ?
Et entre les deux, il recopie littéralement le passage de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Et au lieu de mettre « il met « je ». Et il signe Rabelais, il signe... C'est très facile. Et d'ailleurs, curieusement, dans ses lettres, Sappho, Vercingétorix, Jeanne d'Arc et Newton ont les mêmes formules de politesse finale.
Ah bah c'est la transmission,
c'est, ça. C'est original. Tout
bah, oui, c'est quel genre de formulation, de bon, formulation
il est souvent assez abrupt. Il est un peu comme Molière.
Salut,
il a hâte d'en finir. Oui. Je n'ai plus rien à vous dire. Je vous salue.
Ah oui, effectivement, c'est un peu abrupt. Comment il s'est retrouvé ? On a sauté une étape. Comment il s'est retrouvé en procès ? Il a été dénoncé. Il y a eu une plainte déposée par Michel Schall, au bout d'un moment.
Oui, c'est Schall qui le fait arrêter. Schall lui a avancé 3000 francs contre 2900 lettres, 137 de Louis XIV, etc. Tout est comptabilisé, on a retrouvé le bordereau. Et Vrin-Lucas met du temps à la livrer. Ce qui fait que Schall a peur d'être grugé et il a surtout peur que les lettres partent à l'étranger chez un acheteur prestigieux et que ces lettres échappent à notre patrimoine national.
Donc il y croit encore, Michel Schall, jusqu'au bout.
Tout à fait. Mais il le fait surveiller pendant un mois et il le fait arrêter parce qu'il est à peu près sûr de ne pas avoir les lettres.
Et Vrin va avouer tout de suite avoir fait des faux. Comment il justifie ses actes quand même, Vrin-Lucas, justement par ce climat...
patriotique, vous aviez politique. Employé l'expression tout à l'heure. Voilà. Patriotique parce que il veut, dit-il, rendre à la France l'éclat de la gloire passée. Et donc tout ce qui est inventé par les étrangers devient français, par le miracle de sa plume.
Est-ce que c'est un grand faussaire, Vrin-Lucas, ou non ?
Personnellement, je
ne
dirais...
Ce que vous décrivez quand même, ça a l'air un peu gros, quoi. Oui. Il a l'air d'utiliser des grosses ficelles.
Oui. Je dirais que c'est le faussaire le plus prolifique que la Terre ait porté jusque-là. Mais ce n'est pas un génie du faux. C'est-à-dire qu'il ne prend plus la peine de maquiller l'écriture, de l'imiter, et surtout, il ne tient pas compte de quelque chose qui, chez les faussaires, est majeur, c'est les filigranes. Je vous ai raconté Vercingétorix, il n'en tient pas compte.
Alors, c'est-à-dire, racontez-nous les filigranes.
Eh ben, c'est-à-dire que dans le
billet,
quand vous le regardez, vous voyez le filigrane Manufacture Royale d'Angoulême.
C'est un peu la marque du papier, en fait. Voilà.
Ce qui, pour Vercingétorix, c'est un peu...
Il y a un tout petit
prémonitoire.
Souci.
Donc, il faisait ça pour tout. C'était du papier qui venait toujours du même endroit ?
Oui.
Où est-ce qu'il le récupérait ?
Il le découpait dans les bibliothèques. Et souvent, on l'a pris la main dans le sac.
Et comment ça, dans les bibliothèques ?
Eh bien, il prenait un ouvrage, il l'empruntait, et avec un cutter, le cutter de l'époque, il découpait les pages de garde, et il avait ainsi du papier d'époque. D'ailleurs, sur certaines lettres, on voit, il a pris des ouvrages dans des dorés sur tranches, et on voit le filet d'or sur l'épaisseur de la page, ce qui n'est pas très habile.
Oui, donc c'était... Donc c'était pas un bon faussaire.
C'est un faussaire prolifique, extraordinaire en quantité, mais discutable sur la qualité.
Et en revanche, dans votre livre signé Vrin-Lucas, publié aux éditions Errance, vous dites qu'il y a quand même une qualité dans ces faux, c'est quoi ? C'est l'encre, c'est ça ?
L'encre.
Pourquoi ?
L'Académie des sciences était bien placée pour analyser l'encre. Donc on a demandé à des savants de l'époque, à des chimistes, et la composition n'a jamais pu être trouvée. Et Vrin-Lucas s'en est montré assez fier quand le président lui a dit « Vous avez vraiment une réussite avec l'encre, personne n'a su l'analyser. » Et Vrin-Lucas s'est tourné au président en disant « Tout le monde ne peut pas se dire faussaire. »
Combien de temps il a duré ce procès ?
Il a duré 2 jours.
Donc
les 16 et 17 février, il était condamné à 2 ans de prison. Il est retourné à la prison d'où il était venu. Et libéré, il a recommencé.
Ah.
Il est retourné en prison 3 ans.
Il a trouvé un nouveau pigeon ?
Mais là, il a trouvé un vieux curé, un vieux prêtre de 81 ans, l'abbé Tochon, à qui il a vendu des livres, enfin, il l'a grugé, il lui a volé une montre, enfin, l'autre a porté plainte, il a eu 3 ans de prison, on s'est dit c'est terminé, pas du tout. Il a de nouveau eu un troisième procès, et là, ça a été la fin.
Je voudrais qu'on revienne sur l'attitude de Michel Schall pendant ces 2 jours d'audience. Donc, il assiste aux audiences. Il témoigne à un moment.
Mais oui, il témoigne, qu'est-ce qu'il bien entendu. Eh bien, il dit qu'il est impossible que quelqu'un de son pays, comme Vrain-Lucas, peu éduqué, puisse concevoir une œuvre magistrale comme celle-là. Parce que pour lui, c'est une œuvre. Parce que les lettres se répondent. Elles forment une sorte d'univers. Vrain-Lucas, c'est un démiurge, en fait. Il fonde un monde parallèle. Et toute ça, jusqu'à sa mort, je crois que Schall a cru qu'il y avait un doute. Et on a mis longtemps à admettre qu'un seul personnage faisait toutes ces lettres. J'ai calculé qu'en travaillant tous les jours, il arrivait à fabriquer entre 9 et 11 lettres fausses par jour. C'est énorme.
C'était un vrai métier.
Oui.
Et ça veut dire que Michel Schall, c'était un poète, c'est ça? Il vivait dans un monde, il était heureux, il se complaisait dans ce monde de...
Oui. Je crois qu'il vivait un peu à l'écart.
Cosmogonie inventée par Vrain-Lucas.
Oui, et puis il était tellement content que ses lettres répondent à ses fantasmes secrets qu'il a fini par les croire vrais. Et peut-être s'en est-il persuadé.
Comment se passent les dernières années de la vie de Michel Schall? Il n'est plus respecté, il est exclu de l'Académie des sciences?
Absolument pas. Ses confrères, loin de le mépriser ou même de le laisser un peu de côté, continue à l'élire dans toutes les commissions. Il continue à faire des communications scientifiques. On a l'impression qu'au contraire, il met les bouchées doubles pour rattraper sa réputation, Schall. Et elle n'est pas ternie par cela.
Comment vous expliquez ça, Gérard Coulon, cette clémence?
On a vu une immense confiance en lui, il était très intègre et on ne voulait pas lui faire sentir peut-être le piège dans lequel il était tombé. C'était peut-être une forme de délicatesse de la part de ses confrères académiciens.
Est-ce que ce n'était pas aussi pour ne pas se ridiculiser? On revient au patriotisme aux yeux des adversaires ou des concurrents européens de la France.
Bien sûr, il faut bien avouer que l'Académie des sciences n'en est pas spécialement sortie grandie. C'est le moins qu'on puisse dire.
Allez, une dernière petite lettre, Lazare.
Lazare le ressuscité.
Il écrit à qui?
Oh, je crois qu'il fait une lettre à Marie-Madeleine, il en fait une à Saint-Pierre.
Ah bah oui, en toute simplicité.
Oui, en toute simplicité.
Personne n'a écrit à Dieu directement dans l'histoire.
Non, mais vous avez une lettre d'un médecin gaulois à Jésus pour soigner ses plaies sur la croix. mais elle n'a pas été retrouvée, elle a été brûlée. Seuls 200 ont échappé au naufrage.
Quel dommage.
Et Jeanne d'Arc, à qui elle écrit?
Elle écrit aux Parisiens pour dire qu'elle est aux portes de Belleville et qu'ils peuvent dormir tranquilles.
Chers Parisiens, dormez.
Bon, ce Vrain-Lucas avait du génie quand même, d'une certaine façon. Et ce mathématicien Michel Schall
est
sympathique dans son obstination. Merci beaucoup Gérard Coulon, c'était passionnant. Signé Vrain-Lucas, la véritable histoire d'un incroyable faussaire, publié aux éditions Errance, les bien nommés parce que c'est vraiment une histoire d'errance, l'histoire de Michel Schall.
Vous écoutez RTL.